France Culture.
Voici venir la deuxième partie des midis. Tout à l'heure à 13h, je recevrai la réalisatrice Valérie Donzelli et le comédien Bastien Bouillon. Mais tout de suite, c'est l'heure du point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, organise une journée d'études consacrée aux mutations des patrimoines sonores. Alors depuis de nombreuses années, ethnomusicologues et linguistes s'interrogent sur les moyens de préserver et de rendre accessibles les données immatérielles recueillies sur le terrain. À l'ère du numérique, ces témoignages sonores connaissent de profondes transformations dans leurs modalités d'accès, de circulation et de réappropriation. Focus donc aujourd'hui sur une plateforme en ligne qui permet à tous d'entendre des langues en danger. Alexis Michaud, bonjour.
Bonjour Marie Sorbier.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste des langues sino-tibétaines et austro-asiatiques, et vous vous occupez d'une plateforme en ligne accessible à tous qui s'appelle Pangloss et qui collecte et diffuse des corpus oraux de langues rares ou de langues en danger. Alors peut-être d'abord pour commencer, à partir de quand une langue est-elle en danger ?
Ça, c'est une très bonne question. Alors, c'est des contextes aussi historiques qui changent et qui sont plus les mêmes aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation et de ces divers avatars, que ça n'était le cas dans le temps. Donc, par exemple, si on essaie de dire ça va être parce qu'il y a tant de personnes qui la parlent, et s'il y a moins de 1000 personnes qui parlent une langue, c'est plié, qu'elle va pas pouvoir, dans un monde où on est des milliers de millions à vivre, elle va pas pouvoir survivre. Et ça, ce serait pas une bonne perspective, parce qu'il peut exister des cas de communautés de 200, 300 locuteurs, qui finalement, dans les conditions propices à la perpétuation de leur société, qui est le lieu où est parlée cette langue, où elle coule de source, cette langue peut tout à fait perdurer dans le temps. Et à l'inverse, on peut avoir des langues qui sont parlées par des millions de personnes, comme le shanghaïen, la langue chinoise qui est parlée à Shanghai, et qui se trouve remplacée par la langue nationale, comme ça a été le cas en Europe pour de nombreux parlés qui ont été remplacés par les langues nationales. Donc la langue en danger, c'est beaucoup de questions à la fois. Déjà, est-ce que la langue va disparaître tout à fait ou est-ce qu'elle va petit à petit s'effacer ? Et c'est pour ça que dans le laboratoire où je travaille, on parle de langue, mais aussi de langue et de civilisation à tradition orale. Donc il peut tout à fait survivre une langue sans que pour autant l'intégrité de la tradition orale dont elle était solidaire se soit, elle, perpétuée. Donc au fond, quand nous, on va sauvegarder une langue, alors il y a tout un tas de questions. Qu'est-ce que c'est que sauvegarder ? Qu'est-ce que c'est qu'une langue ? Au fond, elle est solidaire de la culture des gens qui la parlent. Et donc c'est en un sens des œuvres de l'esprit qui sont sauvegardées et qui sinon pourraient tout à fait passer dans l'oubli, comme le monde est un vaste cimetière de culture et de langues qui n'ont pas laissé de traces du tout. Toutes les langues à tradition orale. Et si on a 5000 ans et quelques de tradition écrite, ce qui est beaucoup, eh bien, en fait, ça n'est qu'une toute petite partie de l'histoire même de notre espèce, à nous, Homo sapiens.
Et alors, pour contrer finalement cet oubli, ce grand cimetière dont vous parlez, vous avez créé, vous travaillez sur cette plateforme dont je parlais qui s'appelle Pangloss. Et donc, c'est une plateforme de collecte de sons. Très concrètement, qui collecte ces sons ? D'où vient la matière que vous permettez à tous d'écouter ?
Oui, tout à fait. L'idée, c'est simplement non pas de lancer un grand coup de filet documentaire pour essayer de documenter des centaines ou des milliers de langues pour lesquelles on n'aurait pas les moyens, mais simplement de dire qu'est-ce qu'on a actuellement dans nos tiroirs et dans les disques durs, maintenant qu'on est passé au numérique, de chercheurs, de documents qui, au fond, sont promis à une deuxième disparition si le travail n'est pas fait pour les archiver, pour utiliser le terme technique, ce qui revient à une publication électronique. Donc, la matière de la collection Pangloss, ce sont des documents qui ont été recueillis par des linguistes, par des anthropologues, éventuellement par des géographes ou des personnes d'autres disciplines, pour les besoins d'une recherche spécifique. Il peut y avoir quelqu'un qui s'intéresse à constituer un dictionnaire et puis qui va vouloir avoir un enregistrement de chacun des mots, d'avoir des enregistrements des exemples. Classiquement, on essaye aussi de recueillir des textes, c'est-à-dire la parole telle que les gens nous la confient. Donc un domaine dans lequel eux sont à l'aise, dont ils ont envie de parler, ça c'est l'idéal. Et ensuite, transcrire, annoter tous ces documents à des fins de recherche scientifique. Et si quelqu'un, par exemple, s'intéresse à l'ergativité, des questions de savoir comment on construit donc des constructions autour d'un verbe, comment autour d'un verbe vont s'installer une constellation d'actants, des groupes nominaux qui font référence à l'agent, au patient, au bénéficiaire d'une action, tout ça, pour le propos de ces études, ils vont recueillir une documentation qui doit être fiable et abondante. Et l'idée, c'est que, en plus de faire le travail de recherche scientifique, de publication sur les thèmes qui sont les leurs, et qui varie au cours du temps, eh bien les données qui sont de la documentation linguistique fondamentale soient elles aussi préservées. Et donc c'est de façon volontaire que des chercheurs, des chercheuses vont prendre l'initiative de confier à la collection Pangloss ou à d'autres collections de la plateforme des collections de corpus oraux numériques, Cocoon, qui accueille la collection Pangloss et des dizaines d'autres collections, que des gens vont prendre l'initiative de confier leur corpus avec un travail de toilettage et aussi vont faire confiance au public que ces données vont être livrées à de nouveaux usages dont on n'a pas l'inventaire complet.
Mais alors justement, puisque vous parlez de ces usages et que vous parlez de la réception de ces sons-là, moi j'écoute depuis quelques jours, un peu au hasard, on entend aussi des histoires. Il y a des gens qui nous racontent des légendes de leur pays ou des histoires. C'est assez fascinant de se plonger dans ce site-là. Mais j'imagine que le travail de contexte est particulièrement important dans ce projet. Comment faites-vous pour que ces archives soient entendues dans les bonnes conditions et qu'on ait, nous, récipiendaires de toutes ces langues-là, le bon contexte pour comprendre qu'on est en train d'entendre.
Et tout à fait, ça c'est des choses qui avaient été anticipées il y a des siècles par Rabelais, qui envisageait des paroles gelées, qui seraient des dragées perlées de diverses couleurs, mais qui au fond n'auraient plus de sens, puisque au moment où elles fondent et elles éclosent, et on entend le son qui était gardé dans ces petites capsules, on ne pourrait pas les entendre, car c'est langage barbare, disait-il. Et du coup, tout le travail qui est celui, disons, des chercheuses, des chercheurs, va constituer à combiner les avantages de l'écrit, donc former des annotations qu'on appelle des annotations structurées logiquement, où on dit, ben, ça c'est une traduction dans telle langue, ça c'est une transcription, en utilisant tel système de transcription, avec des éléments de contexte. Donc restituer le contexte social, contexte historique, contexte linguistique des documents. Donc il y a une double forme peut-être, disons, de haute fidélité. Il y a déjà le son, haute fidélité, qui garde l'étoffe d'une voix dans toute sa fraîcheur. Et vous, Marie Sorbier, vous êtes bien placée pour savoir l'importance de la voix dans la transmission des savoirs humains, puis dans les contacts humains. Et puis d'autre côté, une haute fidélité qui va être peut-être non moins difficile à établir, qui est la fidélité au contexte. Et ça, au fond, tout n'est pas dans la collection Pangloss, qui est de la documentation fondamentale. C'est solidaire de travaux qui sont des dictionnaires, qui sont des grammaires, qui sont des monographies de recherche consacrées aux langues et aux civilisations concernées. Et du coup, c'est tout un environnement auquel contribue la collection Pangloss, qui n'est pas une tour d'ivoire hors du monde, mais simplement une façon de nouer des contacts et, disons, d'accueillir en bon ordre des données qui, petit à petit, comme dans un jardin de données, vont être reliées à d'autres types de connaissances sur des langues rares qui, en effet, demandent une érudition longue pour être tout à fait appréciées.
Bien, merci beaucoup Alexis Michaud. Je rappelle donc que la journée d'études au Quai Branly, ce sera à partir du 3 février et que donc vous travaillez sur ce site Pangloss que tous nos auditrices et auditeurs peuvent aller visiter. Merci beaucoup.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, le Sénat a approuvé le projet de loi cadre sur les restitutions.
Oui, attendu depuis longtemps, cette loi cadre vise à faciliter la restitution d'objets culturels acquis de manière illicite par la France entre 1815 et 1972. Elle propose à présent des critères précis et détaillés auxquels le bien doit répondre pour pouvoir être rendu. Chaque demande devra être étudiée par une commission nationale permanente et un comité scientifique afin de trancher sur l'aspect illicite ou non de l'acquisition. Le Sénat compte une douzaine de demandes en attente, comme celle de l'Algérie, qui réclame notamment le sabre de l'émir Abdelkader, actuellement conservé à Salon de Provence.
Et pour finir, Marie, deux festivals font la part belle au spectacle vivant.
Oui, vient de débuter au 104 à Paris la 10e édition du festival Les Singuliers qui se déroule jusqu'au 21 février prochain. La thématique cette année tourne autour du portrait et de l'autoportrait avec par exemple Suzanne, une histoire du cirque d'Anna Tauber et Fragan Gelker, un ciné-spectacle documentaire sur les traces d'une circassienne des années 50 et dans le même temps se déroule jusqu'à samedi à Reims, le festival Faraway qui accueille plus de 150 artistes du monde entier et propose une trentaine de spectacles avec cette année une mise à l'honneur de l'Argentine. Sera ainsi présenté à partir de demain Sombras por supuesto de la dramaturge Romina Paola. Tous les programmes sont bien sûr sur la page du Point Culture.
Évidemment, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain, en attendant, vous écoutez France Culture et il est 13h.